Alors, j'aimerais vous parler de. Peut-être, on n'aura peut-être pas le temps d'utiliser les deux passages que j'avais à cœur, mais en tous les cas, on va commencer par l'histoire cet après-midi. Alors, je vais vous parler de certaines femmes. Dans les études bibliques pour les femmes, je ne veux pas systématiquement parler des femmes sous prétexte que, parce que plus j'avance dans le temps et plus je m'aperçois qu'en réalité, ce qu'on peut dire aux hommes, on pourrait le dire aux femmes, et ce qu'on pourrait dire aux femmes, on pourrait le dire aux hommes aussi en réalité. Mais il est vrai que dans la Bible, il nous est parlé parfois d'hommes très particuliers et de femmes très particulières. Et là, j'aimerais vous parler d'une femme pour commencer. C'est dans 1 Roi chapitre 17. Durant le ministère d'Élie. 1 Roi, chapitre 17. Et alors nous allons lire une partie de l'histoire. On ne va pas tout raconter parce que il y a quelques points précis dont j'aimerais parler. Je ne vais pas forcément parler de tout ce qui s'est passé autour de cette femme, mais je voudrais vous parler d'une attitude de cœur à avoir et aussi d'une qualité spirituelle que certaines peuvent avoir plus que d'autres. Dans tous les cas, on peut demander à Dieu de nous aider dans ce domaine-là. Et donc, mais pour en commencer, on va lire donc dans 1 Roi chapitre 17, versets 8 et suivants. Alors, je rappelle le contexte. Élie, commence à rentrer dans son ministère. Il est encore en phase d'apprentissage. Il n'est pas encore mûr. Il n'a pas encore exercé son ministère public. Il va y avoir une famine dans le pays. Enfin, il y a même une famine dans le pays. Et Dieu va travailler dans la vie d'Élie. Et ce qui est drôle, c'est qu'il va lui demander de faire des choses qui sont des fois un peu, je dirais, particulières, qui peuvent être étonnantes. Par exemple, on sait, selon la loi de Moïse, que les corbeaux étaient des animaux impurs. Pourtant, Élie devra, dormir près d'un torrent, même vivre près d'un torrent, et être, alimenté par les corbeaux. C'est-à-dire que la nourriture, normalement, selon la loi de Moïse, est impure à cause des corbeaux qui la touchent, mais là, la vie viendra par ce qui est impur. Alors, il y a un jugement sur la nation, sur la région, à cause de l'impureté du peuple, et donc Élie va devoir comprendre que son ministère va s'exercer au milieu de l'impureté. Son ministère ne va pas s'exercer alors que tout va bien, alors que la loi est respectée, alors que les gens vivent de façon pieuse, voire pure. Non, il va devoir aimer inconditionnellement, il va devoir servir, il va devoir trouver le contentement, il va devoir obéir à Dieu, il va devoir marcher par la foi dans un contexte difficile. Et ça commence déjà dans la solitude, puisque Dieu le met à part et, comme je l'ai dit, il est ravitaillé par les corbeaux. Et puis vient une autre saison, une autre étape, où là, il va à la fois être dépendant de quelqu'un, donc c'est une femme. Et on va lire le passage dans un instant. Mais ça va être une femme très particulière. Et lisons d'abord le passage. Donc 1 Roi chapitre 17 à partir de verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Donc on va s'arrêter là. On sait qu'après, il va y avoir encore d'autres choses. Son enfant va être malade et mourir. Élie va avoir un ministère pour le ramener à la vie. Donc il va se passer encore pas mal de choses. Mais là, on va parler déjà de ce que Dieu fait dans la vie d'Élie. Déjà, donc je vous ai dit qu'Élie a été nourri par les corbeaux, des animaux impurs, et maintenant Dieu l'envoie à Sarepta. Le texte nous dit là que c'est en direction de Tyr et Sidon. En fait, c'est sur la côte. Hein, Sarepta, c'est une ville sur la côte. Ça correspond à peu près à la Libye aujourd'hui. À l'époque, c'était la Phénicie. Avant ça, c'était les Philistins. Et donc, la ville est située entre Tyr et Sidon. Donc, c'est en terre païenne. Ce n'est pas en terre promise. Alors, le jugement que Dieu amène sur la terre d'Israël, à savoir le manque de pluie et la famine, en fait, c'est, je veux dire, va au-delà des frontières, et donc la région entière vit dans la famine. Donc cette femme vit une situation difficile. Mais pour revenir à Élie, il est demandé à Élie d'aller, dans un premier temps, d'accepter la nourriture en venant d'un animal impur, et deuxièmement, de trouver la vie, de trouver un secours, une issue, auprès d'une femme qui elle aussi est impure, parce que elle fait partie d'un peuple qui adore les Baals. Et le fait qu'il aille en dehors d'Israël montre que d'abord l'Éternel est le Dieu de tout l'univers, de toute la terre, et ça c'est déjà un point important. On a tous un passé différent, des origines différentes, des qualités différentes, un passé différent, on a fait des choix différents dans la vie, on a des héritages différents, mais en tous les cas, quoi qu'il arrive, l'Éternel est vivant pour tous. C'est-à-dire que où que l'on soit, d'où que l'on vienne, nous avons accès à un Dieu de miséricorde, à un Dieu qui donne la vie. Ça, c'est un point essentiel. Et donc, Élie est un, je dirais un, il va initier le ministère de l'Église, c'est-à-dire qu'il va prophétiser et faire du bien au-delà même du territoire d'Israël. Et d'ailleurs, ça, il va en être de même avec Jésus. Rappelez-vous, Jésus va aussi aller dans cette région-là durant son ministère. Et donc, il est appelé vers ce peuple qui célèbre le culte de Baal. Ce qui est intéressant, et comme quoi ça prépare Élie normalement, et pour autant, ça ne va pas forcément lui servir. Parce que, vous vous rappelez quand il va déprimer un peu plus tard, parce que Jézabel va essayer de le faire mourir. Une des amertumes qu'il y a dans le cœur d'Élie, et celle-ci, c'est qu'il croit être le seul à servir l'Éternel, et donc il met tout le monde dans le même panier. Parce que c'est vrai que majoritairement le peuple est idolâtre, et majoritairement le peuple n'accepte pas la parole de Dieu, et donc le ministère d'Élie, ça c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tout le monde doit être logé à la même enseigne. Et Dieu va le reprendre en lui disant « Non, il n'y a pas que toi. J'ai parmi le peuple 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. » Et là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, et nous qui avons un ministère envers tout le monde, que ça soit alors les dirigeants, hein, les hommes de Dieu, comme on dit, mais tous les croyants sont appelés à ça, ne mettons pas tout le monde dans le même sac, c'est-à-dire que chaque personne est un individu. Pourquoi je dis ça? Parce que cette femme-là, à Sarepta, fait partie du même peuple que Jézabel. Cette Jézabel qui va se marier avec le roi d'Israël et qui va en vouloir à la vie d'Élie plus tard et qui va amener la dépression d'Élie. C'est-à-dire que vous avez parmi le même peuple une idolâtre qui va avoir vraiment la volonté de nuire au peuple de Dieu, et puis vous avez cette femme qui au contraire va recevoir le prophète. Donc c'est intéressant de voir que Dieu connaît chaque cœur individuellement, et si nous en tant qu'individus on est, comment dire, ouvert à l'œuvre de Dieu, ouvert à la grâce de Dieu, ouvert à la main tendue de Dieu, elle est disponible pour tout le monde. Vous savez, on n'aime pas l'injustice. On n'aime pas, par exemple, si on est français et qu'on va dans un autre pays, quelqu'un va dire, les Français sont comme ça, nous on n'est pas comme ça, et on va penser que, enfin voilà, ça nous énerve d'être mis dans le même sac que les autres. Mais on est des fois comme ça vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va dire, Voilà, ceux qui ont vécu ce que j'ai vécu, c'est trop tard pour eux. Mais non, pas forcément. Pourquoi toi, tu te mets aussi dans le même sac? C'est-à-dire que ce qu'on reproche aux autres de nous faire, on se le fait parfois à nous-mêmes. Quelqu'un qui est dans cette situation, il ne peut pas s'en sortir. Quelqu'un qui a fait, qui a commis tel ou tel péché, qui a tel ou tel passé, qui n'a pas telle ou telle qualité, bah pour lui, c'est pas possible. Non. Nous avons des possibilités parce que nous connaissons le Dieu des possibles. C'est un Dieu vivant qui peut pourvoir en toute occasion et pour tous les besoins. Et donc cette femme va non seulement être une bénédiction pour l'homme de Dieu, mais elle va être bénie par Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que l'opportunité qui s'ouvre à elle va être une source de bénédiction pour elle. Alors, restons maintenant un peu avec Élie, revenons à Élie. Et donc Élie, on lui demande d'aller vers un peuple impur. C'est déjà pas très normal. Deuxième chose, alors qu'il y a la famine, que les gens n'ont pas de quoi manger, Dieu lui dit, non seulement tu vas aller vers un peuple impur, sur un territoire impur, mais tu vas aller vers une veuve. Les veuves, à l'époque, que ça soit en Israël ou dans les peuples alentours, étaient, avec les orphelins, les gens les plus pauvres. C'est-à-dire que c'était ceux qui, en temps normal, ne pouvaient pas pourvoir leurs besoins, en tout cas très difficilement, et encore plus en temps de famine. Et donc, vous voyez la vision qu'on peut avoir des choses, les circonstances, c'est-à-dire de se dire, bah voilà, la situation, elle est ce qu'elle est, je peux pas aller vers une veuve. Mais on voit qu'Élie est spirituel, il obéit à Dieu, mais la veuve va obéir aussi à Dieu au travers de la parole du prophète, puisque elle va lui montrer sa pauvreté en lui disant, bah voilà, il me reste pas grand chose, c'est mon dernier repas, et puis après, on va mourir. D'ailleurs, j'aime bien les contradictions un peu de l'être humain, parce que, à la limite, si on n'a plus rien à manger et qu'on va mourir, pourquoi encore préparer un repas? Enfin, voilà, c'est un peu, je me fais un dernier resto avant de mourir, quoi, en gros. Mais, en tous les cas, la situation est très tendue pour elle. Néanmoins, elle va croire Dieu parce que elle le dit. Alors, elle s'est peut-être pas encore approprié le Dieu d'Israël pleinement, mais elle reconnaît que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu parce qu'elle dit « L'Éternel, ton Dieu, est vivant ». C'est-à-dire qu'elle reconnaît, dans une situation de mort, dans une situation difficile, dans une situation de famine, elle reconnaît que Dieu est vivant. C'est-à-dire que, sous-entendu, il y a une action possible. Hein, ça, c'est un point important. C'est pas simplement il est vivant, mais il regarde la télé. Mais il est vivant et il agit. Et c'est un point important, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le peuple de Jézabel et de cette femme, dont on ne connaît pas le nom, on ne connaît que son lieu, parce que c'était important qu'on connaisse le lieu, il faut savoir que le Baal, c'était le dieu de la fécondité, des cultures et des bonnes récoltes. Et le fait qu'il y ait une famine, ça sous-entend que derrière, Baal n'est pas efficace. En revanche, le Dieu d'Israël va être efficace. Et le Dieu d'Israël va être efficace même d'une manière très particulière, et ça c'est un point important à avoir en tête, quand on s'attend à un Dieu alors qu'on n'a rien, il semble pour nous impossible d'aller dans certaines directions, que ça soit des impossibilités matérielles, mais même des impossibilités de l'âme à l'intérieur, c'est que Dieu va nourrir le prophète et cette femme et son enfant, mais pas par un moyen ordinaire. Je m'explique. Baal, c'était le dieu de la fertilité et de la pluie. Et donc, il était censé être victorieux sur la mort, puisque si on pouvait manger, on pouvait continuer de vivre. Là, il n'y avait plus de récolte. Le dieu d'Israël aurait pu se comporter, et pourquoi pas, comme Baal, c'est-à-dire, bah voilà, moi je suis l'Éternel, le Dieu vivant, et les Baals ne peuvent rien faire, mais je vais permettre que ton jardin autour de ta maison, par exemple, produise des fruits, produise des légumes, produise du blé. Et avec ça, tu pourras manger. C'est-à-dire faire un miracle quand même, c'est-à-dire qu'il n'y aurait que sur son terrain à elle que la terre aurait été féconde, mais et pas ailleurs. Donc ça aurait été déjà extraordinaire. Mais pourtant, c'est pas comme ça que Dieu va agir. C'est qu'il va même pas utiliser un moyen normal, qui aurait été extraordinaire encore une fois, mais il va aller encore plus loin. C'est-à-dire que ça va même pas passer par les cultures. Le produit va être fini, littéralement. C'est-à-dire qu'il y aura les jarres et l'huile va abonder dans les jarres sans passer par les oliviers, sans passer par les olives, sans passer par la cueillette, sans passer par le pressoir pour faire de l'huile, etc., etc. C'est-à-dire que c'est un Dieu qui est incomparable par rapport aux Baals. Vous voyez, c'est, il pourrait être plus fort que les Baals, mais en utilisant, on va le dire nous avec nos mots, la nature, la création de Dieu. Mais là, Dieu va même pas utiliser la création. Ça va être un miracle pur et simple. Et c'est ça la vie de résurrection. La vie de résurrection, c'est quand ça ne passe pas par le moyen ordinaire de l'existence. Vous voyez, une guérison, ça peut être un miracle, mais la personne était encore en vie. Et donc, elle est à l'article de la mort, mais elle y va, elle meurt pas, elle va mieux, elle est plus vivante, mais elle n'était pas morte. Elle était peut-être, alors ça peut être un lépreux, il est près de la mort, mais il est toujours vivant. Ça peut être une femme avec la perte de sang, elle est malade, mais elle est encore vivante, etc., etc. Mais lorsque quelqu'un est mort, là, il n'y a plus de processus naturel possible. Il n'y a plus de guérison, si vous voulez. Ben non, il n'y a plus de guérison, il y a une résurrection. Et c'est ça la vie que Dieu nous propose, et ça on a du mal à comprendre. C'est que des fois on cherche un Dieu qui fait des miracles, mais on va dire, on cherche quelque chose de survitaminé. Ou c'est pas qu'on le cherche, mais on croit en quelque chose de survitaminé. Oui, il peut amener des récoltes dans mon jardin, oui, une personne peut guérir, mais la vie de résurrection, on a du mal à y croire. La vie de résurrection, il n'y a aucun argument pour croire que c'est possible, sauf Dieu. C'est-à-dire, il y a Dieu. Voilà. Mais il n'y a rien d'autre. Et ça, c'est un point important à avoir en tête, s'agissant de cette femme, c'est-à-dire qu'elle va être bénie au-delà de tout ce qu'elle peut imaginer, et elle va réaliser encore plus, parce que même si elle a déjà discerné quelque chose, mais elle va réaliser que, oui, l'Éternel est vivant, mais d'une manière qu'on ne peut même pas, on ne peut pas comparer ça au Baal. Et c'est un peu la même chose dans notre vie. La vie que Dieu nous propose, mes amis, et j'espère qu'on va vivre ça de plus en plus, peu importe notre âge, peu importe nos qualités, notre sexe, notre argent, notre métier, nos capacités, mais vivons une vie qui n'a rien à voir avec la vie naturelle. Vraiment. Je veux dire, s'il y a... Et c'est pour ça que Dieu, parfois, coupe les liens. Ça ne veut pas dire pour autant que la vie s'arrête, parce que en même temps, regardez, s'agissant de dans la première rencontre avec Élie, qu'est-ce que Élie demande à cette femme? Il lui demande de fabriquer un gâteau. Donc la vie ordinaire continue aussi. Il y a une partie de son qui, elle, ne va pas changer. Elle va cuisiner. Le gâteau va pas arriver dans le four tout fait ou dans un paquet cadeau. Donc il y a une partie de notre existence qui, c'est vrai, continue normalement, mais il doit y avoir, je crois, une vie spirituelle est une vie spirituelle s'il y a une partie, des domaines dans notre vie où on vit quelque chose et ça n'a plus aucune, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on pouvait vivre auparavant. Et j'aime utiliser ça, j'en parle plus souvent dans les cours d'homilétique ou dans les cours pour les hommes, les pasteurs, etc. Mais là, j'ai envie de vous en parler parce que ça a l'air de rien, mais pour moi, c'est très important ce qui s'est passé il y a longtemps maintenant, mais que je continue de vivre en permanence. Parce que là, je ne vais pas parler d'un péché ou quoi que ce soit, mais c'est des aptitudes naturelles ou pas que l'on peut avoir. Lorsque j'ai commencé à... Alors, je crois que j'étais diplômé déjà de l'Institut, mais je commençais un petit peu mon ministère d'enseignant. J'enseignais à l'Institut biblique à Nîmes. Je n'étais pas encore pasteur, mais... Voilà, je commençais à discerner un petit peu les dons que j'avais, mes manquements, etc. Je parle uniquement de la prédication, là. Et j'étais vu à l'époque uniquement comme un théologien, c'est-à-dire quelqu'un qui pouvait bien expliquer la doctrine, on posait plein de questions sur le salut, sur toutes ces choses-là. Par contre, on ne me voyait pas, et c'était normal, hein, on ne me voyait pas comme un prédicateur ou comme un futur pasteur. Et une des raisons... C'est parce que j'avais discerné ça, il y avait un autre pasteur dans l'église qui lui avait cette qualité-là, c'est que quand il prêchait, il donnait des vérités bibliques, mais pour aider à la compréhension du message, il utilisait beaucoup d'histoires, d'illustrations, de façon équilibrée, pas de façon pas exagérée, mais c'était très très créatif. Et ça me rappelait d'ailleurs l'image que donne Spurgeon, dans un de ses livres parlant de la prédication, il dit que les illustrations par rapport à la doctrine, c'est comme une maison. Il dit la doctrine, c'est la maison, il y a tout ce qui est à l'intérieur. Mais les illustrations, c'est comme la lumière qui s'allume près d'une fenêtre. C'est-à-dire que ça permet aux gens d'entrer dans la maison, ça les éclaire, si vous voulez. Et moi, je n'avais aucune capacité pour inventer des illustrations, des histoires. Et quand je préparais mes cours, des fois on me demandait de prêcher dans l'église ou autre, ça venait pas. Et donc je faisais quelque chose de très très mathématique, textuel, de l'exégèse, etc. Et un jour, j'ai dit à Dieu, je dis Seigneur, ça me manque, ça. J'entendais prêcher cette personne. Elle, c'était presque le contraire. Hein. Enfin, c'est pas presque, c'était vraiment l'opposé. C'était peut-être la personne la plus créative dans ce domaine-là. Je dis Seigneur, ça me manque. Ça, il n'y a pas, ça manque. Je m'attends à toi. Bon. J'ai fait une simple prière. Je peux vous garantir que dans les 3 mois qui ont suivi, sans que je m'en rende compte, on s'est rendu compte au bout de 3 mois en fait, quand je prêchais, les illustrations venaient, comme ça. Et encore aujourd'hui, je vous parle devant Dieu, quand je prépare des messages, il n'y a aucune illustration qui vient. Ça ne vient pas. Et donc là, je peux vous montrer mes notes. C'est factuel, j'ai pris des commentaires, j'ai réfléchi, il y a des idées, voilà. Mais il n'y a aucune illustration. Et c'est tout le temps pendant que je prêche qu'elles viennent. Alors du coup, pour gérer mon temps, maintenant j'ai l'habitude, je sais qu'il faut que je mette tant de notes parce que pendant que je vais parler, il y a des choses qui vont me venir durant la prédication et ça va prendre plus de temps. Donc j'arrive maintenant à gérer ces 3/4 de page à 4 tapées encore 14, ça fait 3/4 d'heure en gros. Et il faut pas que j'en mette plus parce que je sais que ça va faire plus. Et alors si je regarde mes notes, je prends peur en disant mais je vais pas tenir 3/4 d'heure. C'est pas possible. Eh ben, parce que ça vient. Et pour vous dire, doctrine appliquée, où je sais qu'aujourd'hui les gens aiment beaucoup ce cours, ils le prennent, des fois ils prennent que celui-là, pour être honnête. Je l'ai pas enseigné pendant 8 ans à Paris, parce que je me sentais incapable de l'enseigner. J'ai essayé, ça ne venait pas. Donc j'utilisais les vidéos de Nîmes, et on passait les cours de doctrine appliquée parce que moi je me sentais pas, j'étais pas à l'aise. Et petit à petit, c'est venu. Donc tout ça pour vous montrer dans un domaine qui n'a rien à voir avec le péché, c'est simplement ce que nous sommes naturellement et ce que Dieu peut faire par son esprit. Quand on marche par la foi et quand on lui demande aussi, on lui demande quelque chose qui nous paraît impossible. Parce qu'on n'est pas, on a l'impression de ne pas avoir été créé pour pouvoir le faire. Un peu comme quelqu'un qui ne se sent pas comédien. Il n'a pas l'impression qu'il peut jouer sur une scène et puis d'un seul coup on va réaliser que... Ben là pour moi c'est un peu la même chose les illustrations. C'est pas dans mon tempérament naturel. Et même dans ma créativité, quand je réfléchis, ça vient pas. Et quand je prêche, ça vient tout seul. Donc, vous voyez, là, j'ai utilisé une illustration qui n'était pas dans mes notes, par exemple. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a des choses possibles avec Dieu. Et ça n'a rien à voir avec quelque chose que j'ai qui peut s'amplifier. Des fois, c'est quelque chose que l'on n'a pas du tout. Peut-être il y en a qui n'ont aucune capacité pour être patient. C'est pas un problème, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. L'Éternel peut agir. À partir de la mort, il peut produire une vie de résurrection. À partir de rien, il a créé l'univers. Donc, ça ne dit pas ce qu'il peut faire. D'accord? Donc, le fait qu'il y a rien en moi, le rien en moi n'est pas plus grand que le rien avant la création. Donc, si avant la création, Dieu a pu faire quelque chose, le fait qu'il y ait rien en moi n'est pas un problème. Ou alors je suis très très orgueilleux. Mon rien est plus rien encore que le rien avant la création. Bien sûr que non. Alors évidemment c'est dans le domaine de l'invisible. On a du mal à le dire, à le toucher. Toujours est-il que c'est vrai. Et donc, Élie d'ailleurs doit croire de la même manière. C'est-à-dire qu'il doit croire que non seulement cet impur, mais en plus cette veuve va être une source de bénédiction pour lui. Et donc il s'y rend et il accepte la situation et cette femme va accepter la situation. Elle va croire à un miracle, elle va croire que le pain et l'huile vont abonder, si vous voulez. Et d'un autre côté, et c'est là où j'aimerais, parce que nos situations sont toutes différentes et vous, l'auditoire qui est devant moi aujourd'hui est différent. Vous avez des gens malades, vous avez des gens qui ne le sont pas, vous avez des gens mariés, des gens qui ne le sont pas, vous avez des gens qui vivent bien leur solitude, d'autres qui la vivent mal, vous avez des gens qui vivent un bon mariage, d'autres qui vivent des mariages plus difficiles, vous avez des personnes qui se trouvent belles, d'autres qui se trouvent moches, Il y en a qui sont belles mais qui se trouvent moches, il y en a qui se trouvent qui sont peut-être non moches et qui se trouvent belles, c'est plus rare en général. Mais toujours est-il que il y a tous les cas de figure. D'accord? Il y a tous les cas de figure. Mais Dieu peut agir dans toute situation et la vie ordinaire continue aussi, c'est ça qui est paradoxal. Pourquoi je dis ça? Parce que cette veuve, elle va vivre des choses quand même particulières. Imaginez, hein, vous vous levez tous les jours et le panier est garni. Le panier est rempli tous les jours. C'est quand même pas rien. D'accord? C'est pas une fois les noces de Cana où Jésus fait transformer de l'eau en vin. Là, c'est tous les jours, le frigo est plein. Donc, elle vit des choses extraordinaires. Mais, elle reste veuve. C'est-à-dire que son quotidien, dans ce domaine-là, il n'y a rien qui a changé. Elle est toujours veuve. Elle est mère de famille. Je ne sais pas comment son enfant était, s'il était dissipé ou pas. Comme il fallait l'élever. Ça changeait pas. C'est-à-dire que des fois, on demande des choses à Dieu et c'est légitime. Peut-être que cette femme demandait à trouver un nouveau mari. D'ailleurs, j'en sais rien. Mais si vous voulez, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que peut-être il va me trouver, alors je parle de cette veuve, un nouveau mari, ou peut-être qu'il va me laisser veuve, mais je vais vivre des choses avec Dieu malgré tout. Et c'est là où on voit que cette femme a une qualité particulière, qu'une femme doit avoir toujours, parce qu'il faut savoir qu'une femme a besoin d'être couverte, c'est-à-dire qu'une femme a besoin d'une autorité. L'homme a besoin d'une autorité aussi, hein, bien sûr, la société est faite avec des autorités, hommes ou femmes. Il y a l'Église, il y a des autorités, la famille, il y a des autorités, mais l'individu a besoin d'autorité aussi. Que ça soit, il a besoin d'autorité dans sa nation, il a besoin d'autorité dans son Église, il a besoin d'autorité dans sa famille. Par contre, la solitude pose plus de problèmes parce que quelle est mon autorité? Alors, on sait que c'est Dieu qui est notre autorité à tous. Néanmoins, il nous faut des fois des autorités délégué, si vous voulez. Et cette femme va discerner l'autorité déléguée. Et c'est ça qui est un point important. C'est qu'elle réalise, elle le sait déjà, que le Dieu d'Israël est le Dieu vivant, mais maintenant que l'envoyé de Dieu est là, elle discerne qu'il y a une bénédiction à obéir à cette autorité déléguée. Notamment lorsqu'il va lui demander de donner par la foi une partie du peu qu'elle a pour nourrir le prophète. Donc, vous voyez, elle va se plier à ses exigences. Alors, pour ça, il faut que l'autorité soit une vraie autorité. Évidemment, si Élie n'était pas envoyé par Dieu, il aurait dit n'importe quoi et il n'y aurait pas eu de bénédiction. Mais en tout cas, elle a discerné que la vie venait de cet homme, si vous voulez, avec Dieu derrière. Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire que dans les situations difficiles que nous traversons tous, nous avons besoin d'une autorité qui nous donne une direction. La direction, c'est Dieu. Deuxième point, la direction, c'est la volonté de Dieu. Mais trois, le panneau indicateur est des fois nécessaire. Il nous faut un panneau, c'est ça une autorité, un panneau indicateur, où ensemble, on marche dans une même direction. Donc la situation de cette femme ne va pas changer dans certains domaines, mais dans d'autres domaines, il va y avoir une abondance de bénédictions. Elle va discerner l'homme de Dieu, elle va donner le peu qui lui reste, elle va évidemment pas être un adepte de Baal, mais en étant un adepte du Dieu vivant, elle ne va pas connaître la faim et la soif comme son peuple va l'expérimenter. Et donc, elle va vivre en période difficile. Alors, la situation n'est pas la même, mais les circonstances sont similaires. Rappelez-vous, quand le peuple était dans le désert, Dieu a pourvu par la manne chaque jour. Et ben cette femme, en pleine famine, va avoir la manne chaque jour. Cette nourriture va être là en permanence, là aussi. Et dans nos âmes, c'est un peu la même chose. Là, aujourd'hui, on vit une situation sanitaire, bientôt économique, qui va s'intensifier. C'est une période difficile. Mais est-ce que nous croyons que la manne va être là? Peut-être qu'on restera toujours veuf, peut-être qu'on sera toujours dans le besoin financier, peut-être qu'on aura des difficultés, bon, je ne vais pas faire la liste, mais est-ce que je crois que malgré ce que je suis et malgré la situation dans laquelle je suis, je crois que la manne sera là? Et pour que la manne soit là, il faut que je discerne la voix de Dieu dans ma vie. Ça se traduit par le choix d'une église, ça se traduit par une autorité spirituelle. Alors évidemment, moi j'en suis une autorité spirituelle, donc on dirait que je prêche pour ma propre paroisse. Je vais vous dire oui, parce que sinon ça voudrait dire que ce que je fais ne sert à rien. et je croirai pas en mon ministère. Donc oui, je le crois. Alors ça peut ne pas être moi, mais il faut que vous ayez toutes des conducteurs spirituels. Si vous discernez que votre mari est un bon conducteur spirituel, soyez soumis à cette conduite-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un complément à l'Église, mais je veux dire, et si vous pensez devant Dieu que ce n'est pas le cas, ayez un conducteur spirituel. Discernez. Ça ne veut pas dire des entretiens particuliers au demeurant, hein. Ça peut. Mais c'est en tous les cas une parole prophétique dans votre vie. Un peu comme le prophète a dit à cette femme quelque chose de précis qu'elle devait faire et qui a engendré ensuite une bénédiction. Là, ça va être des messages, des directions. Ça peut être un entretien, encore une fois, en tout cas, une couverture, quelque chose où on se place et on dit, voilà, c'est là qu'est ma protection. L'Éternel est vivant et il parle avec cette vie que je discerne. D'accord? Ça peut paraître étonnant, mais c'est comme ça que ça va se passer. Là, je me mets à la place de cette veuve qui voit débarquer un homme. En plus, ce qui est intéressant, c'est que normalement, un homme de Dieu, c'est un homme béni par Dieu. Hein, on va dire ça. Donc, qui est-il pour demander à cette veuve, enfin, quelle sorte de prophète est-il pour avoir besoin d'une veuve pour manger? On n'a pas l'impression qu'il y a Dieu derrière lui. On ne voit pas la puissance de Dieu dans un premier temps. Et c'est un peu la même chose. Moi, j'étais toujours étonné des fois de voir que Dieu utilisait des personnes qui, en apparence, n'avaient pas les qualités. Mais pourtant, il y a Dieu qui part derrière. Vous voyez, cet homme venait pas avec un sac à provisions, en disant « Écoute-moi, regarde, je suis béni par Dieu ». Il venait lui aussi avec un besoin. Donc, vous voyez, cet échange qu'il y a, c'est ça la vraie relation spirituelle, en fait. C'est qu'il y a un échange, une vie qui est échangée. Et j'aimerais continuer. Ça va, je continue un peu ou… Oui, allez, on y va. Donc, on va parler d'une autre femme. Parce que, et vous allez voir, c'est la même, un peu similaire, parce que on sait que Élie et Élisée, sont des hommes de Dieu similaires. Hein. Élisée, d'ailleurs, lui aussi avait été couvert par Élie. Hein. Il a été enseigné, instruit, dirigé par Élie. Et puis maintenant, Élisée vole de ses propres ailes. Élie a été enlevé au ciel. Et on va lire maintenant un passage dans 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, toujours à partir du verset 8, d'ailleurs. 2 Rois chapitre 4, verset 8. On va lire deux versets, alors je commenterai un peu ce qu'il y a avant et après, mais on va lire simplement deux versets. 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 10. Un jour, Élisée passait par Sunem, il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Là, c'est intéressant parce qu'on a un peu les mêmes circonstances. À une petite différence près, c'est que cette femme-là ne va pas, comment dire, recevoir des instructions pour agir, parce que la femme de Sarepta, c'est par l'intermédiaire d'Élie qu'elle a appris ce qu'elle devait faire, notamment elle a hébergé le prophète. Elle aussi a préparé une chambre pour le prophète. Et le prophète, d'ailleurs, va ramener à la vie son fils dans cette chambre, dans 1 Roi 17. Ça, c'est Élie. Dans 2 Rois, il va se passer la même chose. C'est-à-dire qu'Élisée va ramener à la vie le fils de cette femme dans la chambre que cette femme lui aura préparée. Donc, on voit des similitudes dans le ministère d'Élisée, mais des similitudes dans l'attitude de ces deux femmes. Sauf que là, c'est cette femme qui initie. C'est-à-dire que cette femme, c'est elle qui va aller vers l'homme de Dieu pour lui proposer quelque chose. C'est pas le prophète qui s'invite. Et c'est pas par hasard d'ailleurs que déjà, d'entrée en 2 Rois 4, cette femme est appelée une femme de distinction. Alors en anglais, je crois, c'est une great woman, enfin une grande dame. Donc c'est une dame, voilà, elle est bien décrite, hein. Il y a un adjectif très fort, très fort. Alors ce mot-là, cette femme de distinction en second, ça parle de quelqu'un de grand, en effet. Ça peut parler d'un nombre ou d'une épaisseur, d'une quantité, donc une quantité spirituelle, d'une intensité. Et parfois, c'était utilisé pour parler de bruit aussi, hein, un peu comme nous en France, on dit un son. Vous savez, dans Corinthiens, Paul dit, il faut que la trompette ait un son distinct. Donc, ça veut dire que le son doit être assez clair pour être entendu et reconnu, si vous voulez, qu'on entende la mélodie. Et donc, ça parle du témoignage de notre vie, l'intensité du témoignage, la portée de notre vie. Et c'est en sens-là, dans ce sens-là, qu'elle était femme, une femme de distinction. Et c'est intéressant parce que la veuve de Serepta a été une femme de distinction aussi. Et pourtant, si on regarde à sa vie, elle a été veuve, elle a vécu seule, elle faisait partie d'un peuple impur, elle a eu le ministère d'Élie pendant quelque temps, c'est vrai, comme un peu un tableau de chasse ou une période dont elle a pu se souvenir pendant des années, mais pour le reste, on ne connaît même pas son nom. Et pourtant, elle a été une femme de distinction. Pourquoi? Parce qu'elle a distingué l'Éternel vivant. Et derrière l'Éternel, elle a distingué l'homme de Dieu, Élie. Et la femme dans 2 Rois 4, avec Élisée, c'est pareil. Elle est une femme de distinction parce qu'elle discerne qu'Élisée est un envoyé de Dieu. Elle discerne l'autorité là. Et donc, elle le presse d'accepter à manger. Et là, on a lu que ces deux versets, mais plus tard, elle va demander à son mari de qu'on prépare une chambre. C'est-à-dire qu'elle va vouloir qu'Élisée vive avec eux. Elle veut vraiment rendre service. Alors ça, évidemment, ça renvoie, vous savez, dans Matthieu 10, 41, où il est dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. C'est pas uniquement dans les temps éternels, hein, entre parenthèses, la récompense. Ça peut, ça sera. Mais ça peut être aussi ici-bas. Cette femme en 1 Roi 17 qui a reçu Élie, elle a reçu une récompense de prophète dans le sens où elle a eu la nourriture en abondance grâce au miracle perpétué par le prophète. Son fils est revenu à la vie grâce au ministère prophétique. Donc elle a eu une récompense de prophète. Elle a partagé la puissance de Dieu sur cet homme. Et de la même manière, cette femme avec Élisée, qui elle va plus loin, elle l'invite, elle le presse de manger. Et là où il y a une similitude avec la femme précédente, c'est que cette femme n'est pas veuve, mais apparemment elle est mariée avec quelqu'un de beaucoup plus âgé qu'elle. Elle a déjà un enfant. Mais le prophète lui promet qu'elle va en avoir un autre. Et elle dit, mais c'est pas possible, me mens pas comme ça, tu me rends triste, etc. Et ça va arriver en réalité. C'est-à-dire que chose impossible pour l'homme, ça va se réaliser avec Dieu. Et ensuite, il va y avoir aussi l'un de ses enfants qui va être malade et à l'article de la mort et même mort, et Élisée va l'amener à la vie de résurrection. Donc on voit qu'elle a reçu aussi une récompense de prophète. C'est-à-dire que tout ce que le prophète disait parce qu'elle le croyait, elle en a profité. Tout ce que le prophète faisait parce qu'elle y croyait, elle en a profité. Et donc, cette femme de distinction a reçu une récompense de prophète. Et comme avec l'autre femme, elle va avoir ses jarres remplies d'huile. Vous voyez, on a les mêmes idées. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors c'est peut-être un peu trop exagéré pour faire spiritualiser, mais j'ai envie de le faire quand même, je fais un écart aujourd'hui, mais c'est intéressant de voir que le Saint-Esprit a permis que dans le texte, la chambre qu'elle a préparée pour Élisée soit décrite. Elle lui prépare un lit. Bon, ça paraît normal. Et le lit nous parle de quoi? Ça nous parle évidemment du repos, le repos de la foi. Ça, c'est un lieu de repos. La relation qu'elle a avec l'homme de Dieu, c'est pour lui donner du repos. Et de la même manière, la relation avec notre Dieu, c'est une relation fondée sur le repos. Vous savez, quand vous êtes invité chez quelqu'un qui n'est pas vraiment votre ami, alors c'est peut-être votre, je sais pas, c'est un repas d'affaires un peu, ou alors vous allez chez votre chef, vous êtes obligé de répondre à son invitation, mais voilà, ou alors la relation est tendue avec quelqu'un, vous y allez. Vous n'êtes pas dans le repos, vous allez manger, mais c'est pas relax comme soirée, forcément. Quelle est notre relation avec Dieu? Est-ce qu'elle est synonyme de repos? D'accord? Ça, c'est le point important. C'est que quelqu'un qui est spirituel, un homme ou une femme de distinction, c'est quelqu'un qui invite Dieu dans sa vie, qui peut inviter éventuellement une autorité de Dieu dans sa vie, mais surtout qui est fondée sur le repos. Deuxième chose, il y a une table. La table nous parle toujours de la communion, c'est le lieu du repas, c'est le lieu où on partage quelque chose. Le siège, parce que il y a quatre choses quelque part dans la chambre. Il y a un lit, il y a une table qui nous parle de la communion, il y a un siège. Alors le siège, c'est intéressant parce que Vous savez, les disciples autour de leur maître, très souvent, on mettait le maître sur un siège alors que les disciples étaient assis par terre. D'accord? Il n'y avait pas forcément des bancs dans les chambres, etc. On peut penser, par exemple, même si c'est plusieurs siècles après, mais lorsque Jésus ou même les apôtres étaient dans la chambre haute, dans la chambre haute, il y a eu jusqu'à peut-être 80 ou 100 personnes de réunies. C'était vraiment une assemblée déjà importante. Ben, on peut penser qu'il n'y avait pas des sièges pour tout le monde. Dans cette culture, à l'époque, là, je parle au temps de Jésus, les gens s'asseyaient par terre, mais parfois les enseignants étaient soit debout, mais quand on lit le livre des Actes, on s'aperçoit qu'il restait des fois des heures dans la chambre haute. Et donc, les dirigeants avec des sièges. Donc, le siège parle de l'instruction. C'est-à-dire que le prophète, il a un lieu de repos, c'est la relation qu'elle a avec Dieu. Il y a une table qui parle de la communion, il y a un siège pour le repos et un chandelier qui nous parle de la lumière qui rentre dans cette maison. Et donc, ça, c'est quelqu'un, c'est une femme de distinction. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, non seulement dans sa relation avec Dieu, mais dans la relation avec l'autorité de Dieu sur la terre, établit des choses qui amènent une bénédiction. Et la bénédiction, on le sait, ça va être de la nourriture et de l'huile pour elle, et aussi pour elle aussi une vie de résurrection pour son fils. Donc on s'aperçoit que cette femme est décrite par le Saint-Esprit comme une femme de distinction parce que elle se rend dépendante de Dieu et de l'homme de Dieu en particulier. Et pour cette femme, c'est encore plus particulier parce que c'est une tsunamite, hein. Et Guérazi, son mari, est un homme charnel. Et donc, on voit là qu'elle, d'un côté, elle respecte son mari. Quand on lit tout le passage, on voit que cette femme est vraiment spirituelle. C'est-à-dire que son mari est charnel, mais elle n'est pas rebelle. Elle reste soumise. Donc, il y a une unité quand même, alors distanciée spirituellement, mais elle est fidèle envers le couple et envers son mari. Et en même temps, elle est fidèle envers Dieu et elle cherche une solution. Et donc, elle fait rentrer Dieu dans la maison, au travers de l'homme de Dieu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut m'inviter à vivre chez vous, hein. Là, on est dans une autre situation. Néanmoins, le principe reste le même, si vous voulez. Il y a un équilibre à avoir. C'est-à-dire que, vous savez, quand une femme, il est parlé de la soumission de la femme, il ne faut pas être soumis à la chair de son mari, forcément. Et donc, il faut discerner ça. Mais toujours est-il, c'est pas trop le sujet d'aujourd'hui. Le sujet, là, c'est que le Saint-Esprit a appelé cette femme une femme de distinction. Et qu'est-ce qu'une femme, ou en anglais, une grande femme? Qu'est-ce qu'une grande femme? C'est une femme qui discerne la présence de Dieu dans sa vie. Et elle se réjouit de la présence de Dieu dans sa vie, par un moyen ou par un autre. Ça ne veut pas dire que son mari va devenir plus spirituel. C'est pas ce qu'on voit dans le texte. En revanche, elle va être bénie par ailleurs. Elle va avoir un autre enfant. La veuve, on la voit pas se remarier. Néanmoins, elle va vivre des choses extraordinaires. Parce que elle va distinguer la présence de Dieu au milieu d'une situation catastrophique, famine, impureté, culte des Baals, un prophète qui arrive et qui a rien avec lui, à part la parole de Dieu, il a rien. Un peu comme Pierre à la porte du temple, il dit moi j'ai rien, j'ai ni or ni argent, il dit ça aux pauvres, mais ce que j'ai, je te le donne. Eh ben, qu'est-ce qu'il a donné, Pierre? Il a donné la parole de Dieu et la puissance de la parole de Dieu qui a guéri cet infirme. De la même manière, Élie a amené la puissance de la parole de Dieu, Élisée a amené la puissance de la parole de Dieu, et donc notre vie à tous, c'est d'être des hommes ou des femmes de distinction qui reconnaissons la vie de Dieu. L'Éternel est vivant, mais c'est pas un slogan. Quand nous voyons la vie arriver, on s'y soumet. Et c'est comme ça qu'on est béni qui sont dans les lieux célestes.